RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'arnaques qu'en ce moment. Des arnaques à la fois avec des entreprises, sur internet bien sûr. On va faire le point jusqu'à 11h. On va voir comment faire attention, surtout comment être vigilant. Et puis si jamais on est victime d'arnaques, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes toujours les bienvenus avec vos témoignages, vos réactions. Vous avez été victime d'une escroquerie, d'une arnaque ou d'une fraude qui vous paraît assez exceptionnelle ou particulièrement méconnue? Bien sûr, venez à l'antenne témoigner au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Vous avez été victime d'une pratique frauduleuse sur internet ou avec des entreprises. Comment vous en êtes sorti? Ça, c'est intéressant aussi. 04 72 38 20 23. Vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Et puis toujours dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. On y va.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et on continuera d'agir à 10h55 dans notre dernier rendez-vous de cette émission avec du soutien psychologique aux jeunes étudiants. C'est ce qui va intéresser Marion Denis du think tank Vers le Haut. Ce sera donc à 10h55. Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir trois invités. Bonjour Pascal Tonnerre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF et bienvenue dans Je pense donc j'agis. Vous êtes le président du réseau anti-arnaque que vous avez fondé. C'est à la fois un site internet, un blog même, et puis une page Facebook qui est assez active. Hein, où vous postez beaucoup de choses. On va avoir l'occasion d'en parler dans cette émission. Bonjour Michel Guillot.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de RCF.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association France Conso Banque qui assiste chacune et chacun dans tous les litiges bancaires et puis bien sûr toutes les arnaques qu'on peut trouver liées à l'argent et liées à la banque. Vous allez nous préciser tout ça. Et puis notre dernier invité, c'est vous, Olivier Guéraud. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes juriste et chargé de mission à la CLCV. C'est l'Association nationale de défense des consommateurs et des usagers. Alors, j'ai dit en introduction qu'on était dans une période où, semble-t-il, les arnaques sont assez nombreuses, notamment sur Internet. Est-ce que vous confirmez ça?
Oui, absolument. On confirme que les arnaques sont de plus en plus importantes. En ce moment, vous avez la mode de l'arnaque au compte personnel de formation, mais vous avez des grands classiques, vous avez les mails de phishing, et puis vous avez des choses un petit peu plus nouvelles qui arrivent. C'est l'arnaque à l'usurpation du numéro de téléphone. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un vous téléphone et il arrive à afficher par des moyens technologiques le numéro de téléphone de votre banque sur votre appareil et se fait passer pour votre banquier. C'est catastrophique, c'est de plus en plus élaboré, et je pense que la prévention est de plus en plus importante. La prévention et la pédagogie. Oui.
La prévention, que ce soit pour les particuliers ou même pour les professionnels, dans les entreprises, au sein même des entreprises où il y a un vrai besoin de sécurité. Et on va avoir aussi l'occasion d'en discuter. L'arnaque, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis tout temps. Pourtant, à chaque fois qu'une personne se fait arnaquer, il y a un sentiment de honte qui intervient, Olivier Guéraud. Est-ce que c'est assez logique, c'est assez normal comme réaction? Et pourtant, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand.
Oui, non, mais vous avez un sentiment de honte, mais il faut lutter contre ce sentiment de honte. C'est vous la victime. Vous n'avez pas à avoir honte d'être tombé sur un escroc. Effectivement, ça peut arriver à n'importe qui. Vous avez des arnaques qui sont tellement élaborées. Et puis, vous pouvez être dans une situation où vous êtes un peu plus fragile. Ça arrive dans la vie de chacun. Et donc, être un peu plus sensible à ça. Je me souviens d'une dame qui était très, très sensibilisée aux arnaques. Et un jour, elle a appelé son médecin pour lui demander un rendez-vous. Il lui a dit « Vous inquiétez pas, on vous rappelle. » Et a croisé son chemin l'arnaque au numéro de téléphone surtaxé pour prendre un rendez-vous. Elle s'est fait avoir.
voyez, c'est, il faut pas dire, moi, ça ne m'arrivera jamais. C'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'il faut énormément se renseigner sur ça. Et d'ailleurs, je vais me permettre de faire un petit peu de publicité pour un site d'État qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, qui est un site d'État. Donc, il n'a absolument rien à vendre. C'est un site qui est remarquable au niveau pédagogie. Et j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à aller voir ce site.
On va aussi voir dans cette émission comment comment faire attention aux arnaques, comment les détecter, et il y a vraiment des clés, et ça on va jeter un petit coup d'œil là-dessus au long de cette émission. Pascal Tonnerre, pourquoi vous avez fondé le réseau anti-arnaque?
Mais écoutez, au départ, c'était une technique de marketing qui avait fait des dégâts en France. Vous savez, c'était des facsimilés de journaux indiquant que vous avez gagné. Donc, on est parti de là. Et puis, par la suite, bien sûr, est arrivé Internet. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'Internet représente une part de marché malheureusement très importante dans les cas que nous rencontrons. Et je voudrais rebondir sur les propos d'Olivier Guéraud qui confirmait qu'il n'y avait, bien sûr, jamais eu autant d'arnaques. Mais il y a aussi une autre explication sur l'origine de ce développement. C'est qu'aujourd'hui, un escroc, il dispose d'une palette de moyens, mais jamais connus, des moyens techniques, des moyens financiers, des moyens juridiques. Donc, les moyens juridiques, c'est aujourd'hui la signature électronique est autorisée, on peut communiquer son IBAN par téléphone, donc ça, évidemment, c'est plus qu'une juridique, les escrocs en profitent. Soutien technique, vous disiez aussi des numéros de téléphone qui sont noués, peut avoir un numéro de téléphone aussi qui apparaissent locaux, alors qu'ils ne sont pas locaux. Il est facile de passer par une société de notification, il est facile d'avoir un hébergeur qui est au Canada et qui n'est pas trop regardant sur la moralité du site. Et aujourd'hui, vous avez des moyens de paiement comme des cartes PCS. Vous savez, ce sont des cartes que vous rechargez avec un code. Alors ça, c'est le mode de paiement privilégié des escrocs. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, être escroc, c'est bénéficier de tous ces soutiens-là.
Michel Guillot, si on s'intéresse à France Conso Banque, alors on est vraiment autour du milieu bancaire avec des litiges qui sont assez courants, j'ai l'impression.
Bah écoutez, chez nous c'est simple, hein. Un adhérent chez nous vient adhérer parce qu'il a été victime d'une arnaque ou d'une fraude. Hein, juste par rapport à ce que disaient les participants, il faut vraiment distinguer, je dirais, la fraude de l'arnaque ou de l'escroquerie. Je dirais que l'arnaque ou l'escroquerie, hein, pour donner une définition assez simple, suppose quelque part une sorte de participation volontaire ou plutôt involontaire de la personne qui a été fraudée ou qui a subi plus exactement l'arnaque. Par rapport à la fraude, où la fraude, par exemple, on vous a subtilisé votre carte bancaire et puis donc par des moyens ingénieux au plan technique, on a réussi à trouver votre code confidentiel. Donc il y a vraiment les deux aspects, parce qu'au plan juridique et au plan de la protection des consommateurs, selon qu'on se trouve en matière de fraude ou d'arnaque, c'est pas du tout la même protection dont bénéficient les consommateurs. Hein, ça c'est le premier point. Un autre point, nous, qu'on essaye de développer, donc quelqu'un à juste titre a souligné qu'il fallait développer la pédagogie à l'utilisation, à l'attention donc des consommateurs. Il y a un autre versant qu'on développe, c'est celui des protections bancaires que les banques précisément devraient mettre en place et que souvent elles ne mettent pas en place pour des raisons commerciales et mercantiles. Donc là-dessus, on pourra en profiter. On pourra profiter de cette émission pour développer ce point, sachant par exemple que sur certains moyens de paiement courants comme les virements, ce qu'on constate, nous, c'est que les moyens de protection mis en place par les banques ont même reculé par rapport à ce qui existait il y a quelques années. Donc là-dessus, on voudrait faire le contrepoint du discours bancaire qui a tendance à culpabiliser le consommateur pour nous mettre l'accent, on va dire, sur les failles et les trous dans la raquette sécuritaire côté banque.
Et pourquoi ces moyens de protection ont diminué? Parce que pour certaines banques, notamment avec l'utilisation d'un smartphone, maintenant il y a le contrôle du visage, de l'empreinte digitale, il y a des mots de passe et des mots de passe qu'on retient jamais d'ailleurs. Pourquoi vous dites ça, Michel Guillot, que les moyens de protection ont diminué?
Exemple peu connu, mais c'est bien qu'il y ait des émissions comme la vôtre, parce que ça permettra justement de faire connaître
avec plaisir
cette faille. En matière de virement, un des moyens de paiement, d'ailleurs les plus utilisés qui soient au jour d'aujourd'hui, puisque les banques font la promotion au travers du virement instantané, qui n'est jamais d'ailleurs qu'une variante du virement classique. Bon, il y a quelques années, si vous voulez, les banques étaient tenues de vérifier la concordance entre le RIB et le nom du bénéficiaire, ce qui était un moyen de protection très efficace pour les consommateurs, parce que peut-être que les autres participants en parleront, mais il y a une vraie recrudescence des fraudes au virement, et dans le cadre de cette recrudescence, nous, ce qu'on remarque techniquement, c'est qu'on change en fait le nom du bénéficiaire. Vous croyez faire un virement pour Monsieur X ou la société Y, et en fait vous faites le virement à un fraudeur. Oui. Il y a quelques années, donc, les banques étaient tenues de vérifier cette correspondance nom du bénéficiaire et de l'IBAN. Au jour d'aujourd'hui, elles ne sont plus tenues de le faire depuis une évolution européenne et réglementaire nationale qui remonte maintenant il y a 2 ou 3 ans. Oui. Et ça, ça nous semble extrêmement nous préjudiciable, à la fois évidemment pour le consommateur, d'ailleurs qui n'est pas forcément au courant de ce recul en matière de sécurité concernant les virements, parce que quand on fait un virement pour Monsieur X, on s'attend à ce que le virement aille chez Monsieur X et non pas chez Monsieur Y. Ouais. Alors là-dessus, les banques vous répondent, nous, on ne fait que des virements d'IBAN à IBAN et on ne contrôle plus le bénéficiaire final de l'opération. Ce qui me semble là être un vrai recul au plan juridique et opérationnel chez les virements. On a le même problème sur les chéquiers, on a aussi le même problème sur les cartes bancaires.
On va préciser tout ça, hein, Michel Guillot.
Il y a beaucoup de choses à dire aussi côté sécurité bancaire par rapport à tous les aspects qui ne sont pas respectés. Nous, on a fait une sorte de cahier des charges à l'attention des banques. Et ce qu'on constate, si vous voulez, c'est que beaucoup de banques ne respectent pas le cahier des charges que nous, on a pu élaborer en matière de moyens de paiement.
Je rappelle que vous avez la parole au 04 72 38 20 23. Si vous avez été victime d'une escroquerie, d'une arnaque ou d'une fraude qui vous paraît à la fois exceptionnelle et puis surtout qui vous a bien embêté, dites-nous comment vous avez vécu tout cela et puis comment vous vous en êtes sorti également. Est-ce que c'est avec la justice, avec l'aide de votre banque ou avec un tiers d'ailleurs? On vous attend au 04 72 38 20 23 avec vos témoignages. Alors justement, on allait dans la rue avec Jeanne Danglejean qui allait tendre son micro aux passants en leur demandant s'ils ont été victimes ou non d'une arnaque. Et la réponse était oui, écoutez.
Alors oui, j'étais effectivement victime d'une arnaque sur Internet pour des bonbons Haribo. Et voilà, ça s'est soldé que la banque a remboursé parce que c'était pas une grosse somme. Dans les 20 euros, 20, 25 euros, je sais plus.
Ma mère, oui, et ma belle-sœur. Le dernier que j'ai reçu, c'était je crois sur la carte vitale. J'ai appelé ma mère en lui disant « Attention, elle avait cliqué et ma belle-sœur aussi avait cliqué. » Elles n'ont pas perdu de l'argent, mais elles ont dû faire opposition toutes les deux à leur carte bleue parce qu'on disait qu'il fallait payer pour rééditer sa carte vitale. Et donc, elles ont dû faire opposition. Et donc, je crois que ça coûte quand même 50 euros de refaire faire sa carte bleue.
En gros, j'ai des gens de ma famille qui avaient réservé une maison pour les vacances d'été, etc. Et du coup, tout était bien sur les photos, mais quand ils sont arrivés, en fait, c'était pas conforme aux photos et la maison, elle n'existait pas, en fait.
Voilà, Olivier Guéraud, trois cas de figure avec des exemples très concrets qui prouvent que les arnaques sont nombreuses et dans des domaines vraiment très divers. Hein.
Oui, ce sont des domaines très divers. Mais ce qui est quand même intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que vous en avez deux qui vous disent « on s'en est aperçu, j'ai prévenu ». Donc c'est bien que la pédagogie, ça fonctionne. Malheureusement, c'est une course sans fin parce que les truands sont très, très imaginatifs. Mais vous voyez, il y a plusieurs personnes qui vous disent « j'ai dit de ne pas cliquer parce que ». Ça, c'est très encourageant.
Il y a une idée qui dit que ce sont surtout les personnes âgées qui se font avoir, si je peux me permettre cette expression.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les personnes âgées, et c'est une très bonne chose, se sont énormément mis à Internet. Et ce sont des gens comme les autres qui ont des cerveaux qui sont en très bon état de marche et qui effectivement se renseignent et qui deviennent des internautes tout à fait intéressants, tout à fait performants. Donc c'est une généralité qu'on ne peut pas tenir, non.
Pascal Tonnerre, vous confirmez que les arnaques, ça touche absolument tout le monde. Tout le monde est vulnérable.
Ah oui, les premiers pas de l'internaute, hein, les jeunes jusqu'aux seniors, tout le monde est concerné. Et ce qui est assez remarquable, c'est que les escrocs, on l'a vu dans les radio-trottoirs, les escrocs savent surfer sur l'actualité de façon extraordinaire. Il suffit qu'il y ait une loi qui sorte, tout sur l'énergie, sur autre chose, tout de suite ils vont y aller, on se va passer pour l'administration. Les fêtes de fin d'année, ils vont multiplier les avis de colis alors que c'est évidemment des faux avis. On l'a vu pour les locations saisonnières, et c'est incroyable. Et heureusement, ce sera quand même le côté un petit peu optimiste, parce qu'en général, les arnaques, nous sommes assez pessimistes. Parfois, il y a tellement de messages bidons, de messages frauduleux. Je pense, par exemple, aux fausses convocations par la police, parce que vous êtes présumé avoir été sur, être allé sur des sites particuliers. Eh bien, il y a tellement de messages qui arrivent aujourd'hui qu'à la limite, le consommateur va être vigilant. Alors que quand c'est sorti il y a 2 ans, c'était tellement rare que le consommateur pouvait prendre comme argent comptant cette convocation en justice.
Est-ce qu'il y a des arnaques qui reviennent très souvent? Je sais pas, une arnaque qui rencontre un grand succès. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme également. Pascal Tonnerre.
Oui, il y a des, comme on a, vous l'appelez dans le domaine du journalisme, des marronniers, c'est-à-dire des sujets qui reviennent fréquemment. C'est l'héritage fabuleux, comme par hasard, c'est vous qui êtes l'héritier.
Ah oui.
Ce sont des offres aussi de gains, vous avez gagné à une loterie, et puis c'est tout à fait... Oui, nous sommes vraiment sur des grands classiques. Et quand vous disiez qu'effectivement, il y avait des vieilles recettes qui sont réutilisées, rappelez-vous dans les westerns, lorsqu'il y avait le vendeur de potions magiques, hein, de potions médicinales, qui se faisait ensuite mettre du goudron ou autre chose, des plumes, mais finalement, aujourd'hui, nous trouvons sur Internet des propositions de produits miraculeux qui ne sont pas des médicaments et qui sont peut-être plus dangereux que de rien prendre.
J'ai l'impression quand même qu'avec l'arrivée d'Internet, alors ça fait déjà quelques années, mais les arnaques se sont vraiment multipliées.
Oui, parce que Internet a permis aux escrocs finalement de toucher beaucoup plus de personnes. Hein, aujourd'hui, il suffit de pirater un fichier et puis de louer légalement des fichiers de clients avec un ciblage, telle personne de tel âge à tel âge, mariée, etc., etc. Et puis donc, ils ont aussi la possibilité de s'expatrier, hein, d'aller choisir un hébergeur canadien, de pourquoi pas d'utiliser une fausse adresse ou une adresse de domiciliation et d'avoir surtout une vitrine. Nous, ce qui nous surprend toujours, c'est l'écart qu'il y a actuellement, même si ça s'arrange, hein, entre le consommateur et la réalité un petit peu virtuelle. Aujourd'hui, vous demandez à un consommateur qui veut acheter un frigo, imaginons. Il va aller voir un magasin local, il ne paye pas de mine, il n'y a personne dans le parking, il n'y a pas de stock, il va être prudent. Il va peut-être commander, parce qu'il fait confiance au vendeur, il ne va rien verser. Donc, il est prudent. Sur Internet, toutes ces barrières s'écroulent. Nous allons voir le consommateur qui voit une superbe vitrine, alors que derrière, il n'y a rien du tout, qui va payer tout de suite, au niveau de la somme qui est demandée, sans les bases de la vigilance qu'il aurait en temps réel à l'extérieur. Voilà le paradoxe.
Michel Guillot, pour ce qui est du milieu bancaire, est-ce qu'on est plutôt bien protégé en France, que ce soit par, bien sûr, les autorités compétentes, mais même par les banques elles-mêmes?
Pour les banques, c'est assez variable, puisque, comme je le disais précédemment, bon, il y a des banques qui appliquent des consignes de sécurité assez strictes concernant tous les moyens de paiement. Parce qu'il faut être clair, pour qu'il y ait arnaque, il faut utilisation d'un moyen de paiement, un chèque, carte, virement. Donc forcément, si vous voulez, l'arnaque, enfin on va dire le produit de l'arnaque, passe par un de ces moyens de paiement. Donc il appartient aux banques de sécuriser ces moyens de paiement. Et là, le problème, c'est que les banques le font, hein, comme je le disais tout à l'heure, plus ou moins bien. Alors juste, je voudrais revenir sur, bon, on parlait de marronnier en matière d'arnaque. Alors effectivement, il y en a une que nous, on a revue récemment, qui avait un petit peu disparu des radars, ce qu'on appelle l'escroquerie au chèque de l'amitié. C'est un truc que moi, je vois et que je constate depuis une vingtaine d'années. Alors c'est vrai, c'est une arnaque typique qui disparaît, puis tout d'un coup qui revient. Alors juste pour mémoire et rappel, hein, ce qu'on appelle l'escroquerie au chèque d'amitié, c'est quelqu'un, en général, que vous connaissez pas, ou pas depuis très très longtemps, qui s'arrange pour vous envoyer un chèque, en général assez important, entre 5 000 et 10 000 euros, et il vous explique qu'il peut pas encaisser le chèque lui-même. Alors là sur pourquoi il peut pas encaisser le chèque lui-même, il y a des tonnes de raisons. Il vous demande de l'encaisser, et puis évidemment, de virer à son profit le produit du chèque, moins un petit dédommagement pour les efforts que vous avez consentis. Alors évidemment, le chèque revient à payer, mais le virement que vous avez fait, lui, est bien réel. Donc ça, c'est une arnaque, effectivement, qui semble revenir là depuis maintenant quelques semaines, au niveau en tout cas de notre association, qui avait disparu et qui revient. Donc il faut toujours être prudent sur par rapport à des chèques remis par des personnes qu'on ne connaît pas, surtout si ce sont des chèques, on va dire, d'une certaine importance.
Je vous lis un message de Jean-Luc qui nous dit « Moi, j'étais victime et je m'en suis beaucoup voulu. On m'a demandé en urgence un cabis de mon entreprise. J'ai pris la première réponse sur Internet, 1,99€. J'ai bien eu mon cabis, mais j'avais souscrit sans le savoir à un abonnement de conseil en entreprise, 69€ par mois. Et la banque n'a rien pu faire car c'est moi qui avais mis mes coordonnées bancaires. » Ça, c'est un exemple parfait pour l'émission Michel Guillot.
Oui, alors faut savoir, si vous voulez, là aussi, il y a une sorte de pédagogie à faire à destination des consommateurs et des clients des banques, pédagogie que les banques ne font pas, parce qu'une carte bancaire, c'est avant tout un moyen de paiement. Donc la banque donne des garanties financières par rapport à ce moyen de paiement, hein, on va parler de la carte bancaire, mais pas de garantie commerciale. Qu'est-ce qu'on appelle une garantie commerciale ? Parce que là aussi, les gens souvent se leurrent sur les possibilités d'opposition qu'ils ont sur les moyens de paiement. Alors, exemple, vous commandez quelque chose sur Internet, on vous livre pas le bien. Donc, un truc ultra classique. Mmh. Est-ce que vous pouvez faire opposition à la carte bancaire ? Réponse, non. Parce que la carte bancaire, elle n'a pas été utilisée, a priori, d'une façon frauduleuse. C'est pas forcément une arnaque. Mais en attendant, le bien que vous avez commandé, vous l'avez pas reçu. Donc là aussi, nous, on trouve que les banques devraient être un peu plus pédagogiques parce que les gens s'imaginent que dès qu'il y a un problème sur une carte bancaire, quelle que soit la nature de ce problème, ils vont pouvoir faire opposition. Alors, c'est vrai s'ils sont victimes d'une arnaque ou d'une fraude, mais par contre, s'il y a un problème commercial à la clé, comme je le disais à l'instant, non, ce n'est pas possible. Pour ça, il faut recourir à d'autres systèmes de paiement qui ne sont pas forcément distribués d'ailleurs par les banques et pour lesquels les banques, ce n'est pas elles qui vont en faire la publicité.
Olivier Guéraud, pour la CLCV, l'Association Nationale de Défense des Consommateurs et Usagers, on peut facilement imaginer que vous avez beaucoup de retours comme ça sur des arnaques. Qu'est-ce que vous en faites, vous ?
Bah, écoutez, le grand classique, c'est le mail de phishing, ça c'est clair et net. On essaye d'avoir des règlements à l'amiable avec les banques, ce qui est très compliqué, parce que vous avez le code monétaire et financier qui prévoit quand on détourne les données de votre carte bancaire, la banque doit vous rembourser. Mais la banque, elle oppose systématiquement la négligence grave, donc pour ne pas rembourser. Donc nous, on essaye de faire ces règlements, c'est difficile. Par contre, ce qu'on fait, c'est que ça nourrit effectivement l'information et les sessions de formation qu'on donne aux consommateurs qui, encore une fois, sont très importants. Vous voyez, il a été évoqué là, ce que vous venez de dire, la personne qui a fait une recherche sur Internet et qui est tombée sur un site. Il y a une chose importante quand on fait une recherche sur Internet qu'il faut redire, c'est que les premiers résultats de votre recherche sur Internet, ils sont marqués « annonce ». Et il ne faut surtout pas cliquer sur ces résultats-là. Ce sont des gens qui ont payé pour être à cet endroit-là et ils ne sont pas le résultat de votre recherche. Et parmi ces gens-là, vous pouvez avoir des arnaqueurs ou vous pouvez avoir des profiteurs. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, si vous souhaitez modifier l'adresse de la carte grise de votre véhicule, les premières modifications sont gratuites, à la condition que vous tombiez directement sur le bon site, le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Oui. Il peut arriver que vous ayez en annonce un prestataire qui va vous facturer ce changement qui aurait été gratuit si vous étiez passé par le bon site. Oui. Vous voyez, donc, ne serait-ce que ça.
C'est des réflexes à avoir, en fait.
Comment ?
Ce sont des réflexes à avoir.
C'est des réflexes à avoir. Lorsque je fais une recherche sur Internet, les premiers résultats, s'ils sont libellés annonce, je n'y touche surtout pas. Ce n'est pas le résultat de ma recherche. Ça, c'est déjà un pas.
Jean-Claude, il nous disait dans son témoignage tout à l'heure, il a commencé en disant « Moi, j'ai été victime et je m'en suis beaucoup voulu ». C'est vrai que se faire avoir de 69€ par mois, on se sent un peu bête et je comprends complètement la réaction de Jean-Luc. Mais là, il n'y a rien à faire dans le cas de Jean-Luc, à part arrêter cet abonnement, Olivier Guéraud.
D'après ce que vous m'avez dit, c'est un professionnel, on est d'accord.
Oui, c'est une
entreprise. Donc, par définition, il ne va pas avoir la protection du code de la consommation. Donc, c'est la relation contractuelle. À la limite, s'il a un petit peu de temps, c'est de voir est-ce que son consentement a été récolté d'une manière loyale et satisfaisante. Ouais. En général, la mention, elle est là, elle est toute petite et c'est fait en sorte pour qu'on... c'est étudié pour qu'on n'y prête pas trop attention. Mais quand vous arrivez devant un juge, si la mention, elle est là, vous n'aurez pas raison. Et puis encore faut-il faire la démarche d'aller devant un juge. Tout le monde n'a pas le temps pour ça. Donc c'est compliqué.
Racontez-nous, hein, si vous avez été victime d'arnaque, de fraude ou d'une escroquerie, venez témoigner au 04 72 38 20 23 ou alors par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Ça pourrait être vraiment utile pour celles et ceux qui pourraient tomber dans le panneau et ça pourrait nous permettre de vous donner également de très bons conseils. Alors on continue cette émission, on a trois représentants, vous l'entendez ce matin, d'associations, à la fois la CLCV, l'Association Nationale de Défense des Consommateurs et Usagers, avec vous Olivier Guéraud, Michel Guillot, vous représentez France Conso Banque, et puis Pascal Tonnerre, vous c'est le réseau anti-arnaque d'ailleurs qui a été fondé avec UFC Que Choisir, qu'on connaît bien.
Oui, nous sommes partenaires de l'UFC Que Choisir, en effet.
Ouais. Et donc, sur ce site internet, vous référencez plusieurs types d'arnaques, hein, que ce soit les propositions de cadeaux, les offres promotionnelles, pardon, les offres de voyance. Alors ça aussi, ça nous fait doucement rire quand on voit ça, parce que c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup. Il y a également les ventes à distance. Ça, c'est des arnaques qui arrivent très souvent, Pascal Tonnerre.
Oui, la vente à distance, effectivement. Déjà, dans le passé, c'était la vente par correspondance et les catalogues classiques. Aujourd'hui, nous arrivons avec des sites très performants et avec, bien sûr, des sites aussi qui peuvent être éphémères. Donc, nous luttons contre cela. Et je dirais que tout ce qui est vente à distance englobe aussi des propositions comme ça extraordinaires. Et nous parlons tout à l'heure de pédagogie. Et nous disons souvent, sous une formule un petit peu choc, ce qui est gratuit n'existe pas. Ça veut dire que si on propose un produit gratuitement à distance, comme cela, il y a quelque chose qui ne colle pas. Aujourd'hui, un commerçant doit vivre. Donc, il y a bien une contrepartie, souvent cachée, qui va demander aux clients, ça peut être des frais de port, ça peut aussi expliquer ce qu'on a entendu tout à l'heure sur le témoignage, par des abonnements qui apparaissent. Je vais demander des échantillons gratuits ou un produit qu'on me propose comme soldé, je vais donc régler juste les frais de port, quelques euros, mais je communique mon numéro de carte bancaire, et en validant la commande, je valide des conditions générales qui prévoient qu'il y a un abonnement, et donc mon compte sera débité tous les mois. Alors pour un peu que le consommateur ne surveille pas ses comptes, et bien jusqu'à la date d'expiration de la carte, il va payer donc des sommes qui peuvent aller de 30 à 50 euros.
Michel Guillot, ça aussi c'est typique.
Pardon.
C'est typique également, hein, ce genre de témoignage que vient d'évoquer Pascal Tonnerre.
Oui, effectivement, moi je voulais revenir sur l'arnaque aux abonnements, parce que ça a beaucoup marché, ça a bien marché ces dernières années. D'ailleurs, à tel point que le législateur vient de faire évoluer la loi sur ce point-là. Alors nous, on donne un conseil qui n'est pas forcément très légal, mais très efficace. Quand on est victime, on va dire, de paiements périodiques frauduleux ou qui résultent d'une arnaque, c'est de déclarer sa carte bancaire perdue ou volée. Hein, ça bloque les prélèvements. Et l'expérience montre que le bénéficiaire, entre guillemets, du produit, du paiement, fait rarement, comment dirais-je, une procédure ou même une mise en demeure à l'égard de celui qui a été arnaqué, ce qui serait un petit peu le comble. Alors, comme je le disais, donc c'est pas forcément très carré au plan de la légalité, mais c'est efficace d'un point de vue opérationnel.
Olivier Guiraud, on continue de parler de ces nombreuses arnaques qui sont là. Je posais la question par rapport au milieu bancaire, si on était bien protégé par les autorités compétentes. D'un point de vue assez général, est-ce que on est bien protégé contre les arnaques? Je veux dire, si jamais on se fait arnaquer, est-ce qu'on peut rapidement se faire aider?
Je ne dirais pas qu'on est bien protégé contre les arnaques. Non, je ne dirais pas ça. C'est encore pire si, parce que on parle beaucoup d'internet, et bien évidemment, c'est encore pire si vous avez acheté hors de France. Bien sûr, puisque hors de France, dès l'instant que vous avez quelque chose, même ne serait-ce qu'une commande qui se passe mal, les réclamations hors de France sont plus compliquées, et une arnaque pour une personne qui est située hors de France, tout ça est très compliqué, puisque tout ce qui est DGCCRF et compagnie ne va pas agir hors de France. Alors c'est tentant, bien évidemment, d'aller acheter lointain parce que c'est moins cher, mais si vous avez une difficulté, une arnaque, c'est plus compliqué à voir. Et en matière bancaire, comme ça a été dit, moi je n'estime pas qu'on est bien protégé. Non, vous avez effectivement cette fameuse excuse de la négligence grave qui est mise en avant par les banques pour ne pas rembourser. Et ça, c'est assez catastrophique. Considérez que parce que vous êtes tombé dans un piège qui vous a été tendu, vous avez fait preuve de négligence grave, c'est dommage. Et c'est pas la meilleure des protections qu'on puisse offrir aux gens.
David nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour à vous, David.
Bonjour. Bonjour aux auditeurs, à vos invités, bonjour.
Eh ben bonjour et on vous écoute surtout, David. Allez-y.
Voilà, très bien. Comme je le précisais à votre standardiste, j'ai été touché par une arnaque en ligne concernant la réservation achat d'un billet d'avion électronique Bordeaux Casablanca sur la base d'un aller simple, et je n'ai jamais pu imprimer. Après coup, nous pouvons imprimer le billet d'avion si on est muni d'une imprimante en réservant en ligne sur un site. Et je n'ai jamais pu, d'une part, imprimer le billet d'avion. De deux, j'ai été débité de la somme du coût du billet d'avion, de l'achat en lui-même.
Oui.
Je me suis retourné auprès de mon établissement bancaire. Dans un premier coup, ils ont pu me rembourser, mais la banque adverse a redemandé de créditer la somme. La somme à nouveau.
Ah oui.
Et le site en question sur lequel j'ai fait la résa du billet d'avion était basé, d'après mes recherches, en Croatie.
Ah oui.
Et je voyais les commentaires et ça venait ce type d'arnaque venait fréquemment de ce coin-là de Croatie, hein. C'est une localité en banlieue de la capitale croate.
Où il y a souvent des arnaques, en tout cas avec le billet d'avion. Voilà. Ah, c'est... Donc, oui. Allez-y, David, rapidement, si possible.
D'accord. Du coup, j'ai été à nouveau obligé de repayer cette somme auprès du site arnaqueur. Et pour info, ce qui n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant, je terminerai là-dessus,
oui.
Que quand nous rencontrons un litige de remboursement qui nous oppose à la banque, et la banque s'oppose fortement à rembourser le client, il faille, ce que je conseille et préconise, il faille se retourner auprès de l'ACPR, qui est rattachée à la Banque de France, qui est le régulateur et contrôle les surveillances bancaires.
Merci beaucoup, David, pour ce témoignage de terrain. L'ACPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel pardon, je m'étouffe. Et de résolution. Michel Guillot, je vous fais réagir sur ce témoignage avec ce billet d'avion pris sur Internet qui était, semble-t-il, un faux billet d'avion.
Alors, un grand classique. Alors, ce qui est encore plus classique, c'est la réaction des banques. Parce que les banques, si vous voulez, elles ont une politique systématique de non-remboursement à la fois des arnaques, mais encore pire, même des fraudes. Parce qu'en matière de fraude, très souvent, en fait, c'est la responsabilité de la banque qui est engagée. En matière d'arnaque, c'est plus discutable parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'arnaque suppose la participation quelque part de celui qui a été fraudé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, de toute façon, compte tenu de la volumétrie, hein, on n'en a pas parlé, mais la volumétrie est quand même une donnée importante. En matière de fraude, on est quand même pas loin du milliard d'euros par an. Donc on comprend que les banques, quelque part, si vous voulez, ont une politique en la matière, et la politique, c'est de rembourser le moins souvent possible. D'ailleurs, nos confrères du FC Que Choisir, vous avez cité tout à l'heure, hein, ils avaient cité des statistiques comme quoi, dans plus de 35% des cas, les banques ne remboursaient pas les fraudes. Alors sur les arnaques, on peut dire, nous, que le taux grimpe quasiment à 90%, hein, selon nos statistiques internes, puisque en matière, la banque fait vraiment la distinction fraude-arnaque. Hein. Arnaque, donc, comme je le disais, participation du fraudé. Fraude, a priori, responsabilité technique de la banque. Quel que soit le cas, donc, la banque traîne des pieds. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler, c'est les moyens de recours.
Oui,
des clients bancaires par rapport à cette situation.
Oui.
Parce qu'en fait, les moyens paraissent sur le papier assez conséquents, hein, puisque dans toutes les banques, en tout cas de France, il y a forcément un médiateur. si la démarche auprès du médiateur fonctionne pas, il y a après ce qu'on appelle le conciliateur en justice, en tout cas pour les petits litiges. Et puis après, éventuellement, il y a la saisine des tribunaux, on va dire, pour les banques les plus récalcitrantes.
Ouais. On écoute une chanson de Christophe Willem, son tout nouveau single « Je tomberai pas ». Et puis on se retrouve juste après en direct dans « Je pense donc j'agis » pour parler des arnaques et des pratiques frauduleuses.
Je comprends pas vraiment l'histoire, je suis trop gentil pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant pour gagner l'intérêt des gens? Dans l'arène, je me suis fait rare, un peu comme un nouveau départ. Adieu la gloire et sa folie, je m'enfuis, tu me suis. J'oublierai pas d'où je viens, qu'on vivra jamais serein. La mort a pas de promesse, y'a que l'amour qui reste. J'oublierai pas d'où je viens, je tomberai pas dans le pas. J'attends pas la révolution, mais on change pas le cours de l'histoire en foutant feu pour l'amour de l'art. Qu'est-ce qu'on a fait de ces valeurs? Je marche dessus, moi j'ai pas peur. Comme la fin du meilleur des mondes, un empire qui s'effondre. Je vendrai pas mon âme au diable pour voir personne à ma table. Ignorant de la fable, le démon et les flammes, je vendrai pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le panneau, à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, du pays ou du père, je tomberai pas dans le panneau. Je serai personne sur le carreau, la galère se prendra tôt. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur, je serai personne sur le carreau. Je tomberai pas dans le panneau. Le démon et les flammes, je vendrai pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le panneau.
Ah oui, je tomberai pas dans le panneau. C'est presque une chanson de circonstance ce matin sur RCF. Je tomberai pas. Une chanson de Christophe Willem.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Eh oui, je tomberai pas dans le panneau parce que on parle des arnaques et des pratiques frauduleuses dont je pense donc j'agis avec nos trois invités, Pascal Tonnerre du réseau anti-arnaque, Michel Guillot de France Conso Banque et mais Olivier Guéraud de la CLCV, l'Association Nationale de Défense des Consommateurs et d'Usagers. On est retourné dans la rue avec Jeanne d'Anglejean. Alors, on a entendu tout à l'heure quelques passants qui avaient été victimes indirectement ou directement d'arnaques. Alors là, on va entendre des non-victimes, heureusement pour elles, mais des passants en tout cas qui ont su se protéger. On écoute.
Oui, j'ai été souvent sollicitée sur Internet, soit par des mails, soit par des SMS, pour des achats, pour des colis. Jusqu'ici, j'arrive à les déjouer, quoi.
Sur Instagram, je reçois souvent des messages, soit des comptes russes ou de tes potes qui se font hacker. Ils t'envoient un truc en mode « Ah, c'est toi sur la photo, clique sur le lien pour regarder ». Faut pas cliquer. Cliquez pas, les gars.
Oui, on reçoit de temps en temps des SMS qui nous paraît douteux. Donc, on les ouvre pas. Moi, je les mets directement à la poubelle.
Voilà, ça, c'est des bons réflexes à avoir. Tout comme Esther qui nous a rejoint. Bonjour, Esther.
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Alors, j'interviens sur le fait que votre invité a parlé des recherches sur Internet.
Oui.
Et que les premières lignes... C'est vrai qu'ils payent pour être sur les premières lignes, les arnaqueurs. Il y a écrit annonce. Alors, dans une formation où j'ai été pour de l'informatique, on me faisait taper un mot qui est in titre. Alors, je vais vous dire comment ça s'écrit.
Oui, allez-y. On va essayer de comprendre.
Alors, il faut... Quand on a une recherche à faire au niveau de l'Internet, hein, de l'ordinateur...
Ouais, un moteur de recherche, vous voulez dire.
Ouais, voilà. Vous tapez in-title, I comme Isidore, N comme Nathalie, T comme Thérèse, I comme Isidore, T comme Thérèse, L comme Laurence et E comme Étienne.
In title, alors.
Voilà, ouais, voilà. Je dis une title.
Et ça permet d'éliminer des mauvaises adresses. Hein.
Alors, attendez, parce qu'il faut mettre deux petits points sans espace et taper sans espace aussi ce qu'on recherche.
Et là, ça élimine potentiellement les arnaques aussi. Hein,
ouais. Vous aurez l'expérience. Des fois, en haut, il est marqué le nombre de personnes qui répondent à la recherche.
Très bien.
Et ça va à 900 et je ne sais plus trop quoi, 1000, des millions. Et puis, vous pouvez tomber à 38 000.
D'accord. Voilà une bonne idée. Merci Esther d'avoir appelé pour apporter cette petite astuce. Olivier Guiraud, il y a plein de petites astuces comme ça à reproduire.
Oui, il y a plein de petites astuces. Donc on l'a vu, les recherches internet, effectivement, ne pas cliquer sur les annonces. Les mails, vous recevez un mail qui vous met en scène une situation d'urgence. Dépêchez-vous parce que la situation d'urgence, ça doit de toute manière vous alerter. La situation d'urgence, c'est quelqu'un qui va vous avoir, ça c'est sûr et certain. Et puis comme ça a été dit, les trop belles offres, les trop belles propositions auxquelles dans la vie courante vous ne donneriez pas suite. Mais il est vrai que sur Internet, on a tendance à... Si quelqu'un vous arrête dans la rue demain en vous disant vous avez gagné à une loterie alors vous n'avez pas joué, vous n'allez pas le croire. Sur Internet, auprès d'un certain public, ça peut passer. Donc, faut quand même garder bien la tête froide sur Internet. Pas plus sur Internet que dans la vie, le Père Noël est présent. Les affaires miraculeuses sont là. Vous voyez, il faut garder la tête froide, y compris quand on est sur le net. Et je dirais même surtout quand on est sur le net.
Bernard est avec nous. Bonjour Bernard.
Allô?
Oui Bernard, vous êtes à l'antenne, bienvenue.
Bonjour. Voilà. Alors je voulais vous dire que un chèque déchiré peut néanmoins être encaissé. C'est bizarre, mais c'est ce qui m'est arrivé. Alors j'avais décidé d'acheter une voiture. Et puis donc j'ai fait un chèque à la personne pour lui dire, signifier que je réservais cette voiture et que je viendrais la chercher plus tard. Parce qu'elle était en panne, cette voiture, il fallait la mettre sur un plateau. Donc, il était convenu que ce chèque se retirait quand je viendrais chercher la voiture. Or, eh bien, le lendemain, cette personne a retiré le chèque. Alors, je suppose que c'était une photo. Je lui ai signifié que je prenais plus sa voiture. Elle a dit OK. Elle m'a dit je déchire le chèque. Elle m'a envoyé la photo du chèque déchiré par SMS. Mais visiblement, c'était certainement une photocopie du chèque et elle a retiré le chèque, le vrai chèque.
Et il a été encaissé, le chèque, alors?
Et le chèque a été encaissé.
Ouais. C'était un chèque de combien, Bernard, sans indiscrétion?
Pas de souci, de 950 euros.
Ah oui, d'accord. Oui. Qui ne représentait pas le coût de la voiture ou si c'était vrai? C'était le prix de la voiture.
C'était le coût de la voiture. La voiture était en panne, donc... J'avais vu avec un mécano pour la mettre sur un plateau pour aller la chercher dans quelques temps. Et, voilà, donc.
Et c'était un particulier ou un garagiste?
C'était un particulier. Une dame qui était à une cinquantaine de kilomètres de chez moi. Donc, pour éviter de retourner là-bas à récupérer le chèque, on s'est mis d'accord. On m'a dit, OK, pas de problème, je retire le chèque.
Et hop, 950 euros encaissés.
Je détruis le chèque, voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous avez fait du coup? Ça m'intéresse.
Eh bien, j'ai déposé plainte auprès de la gendarmerie qui va s'occuper de cette dame, certainement.
Ah oui, c'est assez récent, alors, cette histoire.
Oui, c'est assez récent, là. Oui, c'était la semaine dernière.
Bon, écoutez, Bernard, merci là aussi pour ce reportage de terrain. Pascal Tonnerre, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez courant.
Nous découvrons des techniques nouvelles constamment, même avec l'expérience de chacun, on retrouve des escrocs qui découvrent encore des techniques. Alors ici, je ne pense pas que ce soit une photocopie de chèque, je pense que tout simplement, le chèque a été gardé par l'adversaire, si j'ose dire, a été reconstitué, c'est-à-dire un ruban adhésif, et puis qu'il est passé tel quel, il a pu expliquer peut-être l'ordre de ce chèque, j'ai eu un problème avec mon chèque, je l'ai déchiré par erreur, est-ce que ça passe? Du moment qu'il y a des lignes de post-marquage, etc., oui, il va passer. Hein. Mais c'est vrai que tous ces moyens de paiement, il faut être prudent. Donc là, évidemment, ne jamais laisser même un résidu de chèque chez l'adversaire. Également, on va parler des cartes bancaires. Aujourd'hui, il existe des e-cartes, c'est-à-dire des cartes virtuelles dont le numéro va être créé pour vous, qui va servir une seule fois, et que finalement, vous pouvez utiliser pour, si vous souhaitez néanmoins commander à l'étranger ou sur un site peu connu. Au moins, il n'y aura pas d'abonnement, au moins, il n'y aura pas réutilisation du numéro de carte. Donc ça fait partie comme ça des conseils pratiques, effectivement, que le consommateur doit avoir en tête.
Olivier Guéraud, Bernard a eu le bon réflexe d'aller porter plainte.
Oui, il a eu le bon réflexe de toute manière. Après, il faut voir comment les choses vont se passer. Mais sur les chèques, nous, on a eu à un moment une succession d'arnaques aux faux chèques de banque. Vous savez, le chèque de banque, c'est le chèque qui est émis par votre banque et vous êtes sûr qu'il y a provision. Et vous avez souvent des petits jeunes qui vendaient leur voiture. Donc, on leur donnait bien évidemment rendez-vous un dimanche parce que c'est important le dimanche. Parce que le dimanche, vous ne pouvez pas contacter la banque. Et donc, on le payait avec un faux chèque de banque. Et donc, évidemment, il pouvait absolument pas encaisser le chèque puisque ça ne correspondait à rien. Et surtout, le détail le plus épouvantable, c'est que par rapport à votre assurance automobile, il n'y a pas vol puisque vous avez volontairement remis votre véhicule. Voyez, un autre truc, on ne fait pas ce genre de transaction un dimanche. Un chèque de banque, eh ben vous appelez la banque pour vérifier si elle est bien les maîtrises de ça, autrement vous avez tout perdu.
Ouais. Et par contre, Bernard nous a raconté qu'il avait donné le chèque sans avoir la voiture avec lui. Hein. C'était comme, je sais pas, un acompte. Alors pour le coup, c'était vraiment le total hein, du prix de la voiture. Ça, c'est un mauvais réflexe peut-être de la part de Bernard.
Il aurait pu être un petit peu plus prudent. Aurait peut-être été un petit peu plus prudent. Moi, j'avoue que j'aurais probablement fait un écrit. Et puis voilà, il aurait pu être un petit peu plus prudent.
Comme une
parce
forme
que...
de contrat peut-être.
Oui. Voilà, c'est ça, parce que après, il change d'avis, mais il change d'avis par rapport à quoi? Alors, j'espère vraiment que la police lui donnera raison, mais vous savez, quand vous arrivez devant un juge, il va essayer de reconstituer la commune intention des parties. Oui. Quand il n'y a pas d'écrit, ben, c'est compliqué de reconstituer la commune intention des parties. C'est parole contre parole.
Oui. Bernard, bien sûr, n'y voyez aucun jugement, hein, si vous nous entendez. C'est plutôt pour donner de bons conseils à d'autres personnes qui pourraient peut-être rencontrer ce même cas de figure. Isabelle est avec nous. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour. Donc, je vous appelais pour parler de ma maman qui a été victime d'une arnaque. Donc, en fait, elle a loué des gîtes à une entreprise portugaise qui avait donc des ouvriers qui venaient travailler en France. Poser des panneaux voltaïques, photovoltaïques.
Oui, alors ça, oui.
Et donc du coup, elle n'a pas demandé le paiement de la location à leur entrée. Et du coup, là, ils sont repartis. Ils ne sont plus chez ma maman. Et donc, ils ont payé une infime partie pour essayer de faire patienter, disons, et en disant qu'ils allaient payer. Et ils n'ont jamais payé. Et en plus, donc, ils sont partis en laissant les appartements bien dégradés. Et donc là, bon ben, on n'a pas bien de recours. Je ne sais pas ce qu'il est possible de faire.
Alors, à qui vais-je donner la parole? Tiens, Michel Guillot, peut-être que vous avez des éléments pour notre auditrice.
Notamment par rapport au monsieur avec son chèque d'acompte, son chèque relatif à une transaction automobile. On a eu un cas similaire à celui-là, parce que ça, effectivement, donc, c'est le genre de choses qui peut arriver dans la vie courante. Alors, il faut savoir qu'on a réussi à mettre en cause la responsabilité de la banque, parce que, si vous voulez, ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que les chèques physiquement ne sont plus échangés, ce sont on appelle des images chèques. Donc, les fraudeurs, évidemment, connaissent très bien ce circuit, les arnaqueurs aussi, et donc, si vous voulez, reconstituer, par exemple, un chèque qui aurait été déchiré ne pose pas de difficulté s'il ne fait l'objet que d'un traitement par voie d'image chèque. Mais la loi est assez claire sur le sujet. La banque est tenue de vérifier le chèque dans son originalité même. Donc là-dessus, si la banque ne le fait pas, ce que les banques ne font plus, hein, parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore à peu près un peu plus d'un milliard de chèques qui sont émis chaque année. Les banques sont astreintes à faire un certain nombre de contrôles sur ces chèques et elles ont fait l'impasse sur ces contrôles, comme en matière d'ailleurs d'autres aspects sécuritaires relatifs à d'autres moyens de paiement. Mais leur responsabilité reste engagée quand il y a un problème. Là, en l'occurrence, le chèque n'ayant pas été, en quelque sorte, contrôlé physiquement au niveau de son original par la banque est responsable. Oui. Donc, pour ce monsieur, au regard de son expérience sur ce chèque déchiré, il y a une possibilité.
Il y a un peu d'espoir, ouais.
Il y a un petit espoir, au plan juridique, si vous voulez, là-dessus, les choses sont claires et nettes. Après, le problème, si vous voulez, c'est éventuellement la mauvaise foi des banques qui table sur le fait que les gens vont pas faire de procédure, qui vont pas recourir à des tribunaux, qui vont même pas aller voir un conciliateur. Donc ça, c'est un autre encore aspect, c'est un autre aspect des choses par rapport à ce que font ou ne font pas les banques.
Oui. Michel, sur le témoignage de Françoise qui est venue à l'antenne il y a quelques instants, est-ce que vous avez, vous, des éléments de réponse? C'était Isabelle, pardon, qui est venue à l'antenne sur les locations non payées.
Non, parce que là, c'est pas...
C'est moins votre domaine, ouais.
Sur les locations non payées, c'est pas à proprement parler un problème bancaire, hein, c'est pas lié à un moyen de paiement, puisqu'en l'occurrence, si j'ai bien compris l'histoire, c'est qu'il n'y a pas eu de moyen de paiement du tout. Donc effectivement, ça peut être assimilé à une arnaque. Mais là, je dirais que les moyens de s'en prémunir sont assez limités, sauf à demander un acompte, hein, puisqu'il s'agit de locations saisonnières, voire au jour le jour, sauf à demander un acompte en début, on va dire, de prestation de service.
Ouais. Olivier Guéraud, les arnaques aux panneaux photovoltaïques, puisque Isabelle en a parlé également.
Les arnaques aux panneaux photovoltaïques. Il y a quelques temps, c'était une catastrophe. Et c'était surtout. Alors, vous aviez l'arnaque d'un point de vue technique, c'est-à-dire c'était des panneaux photovoltaïques qui étaient pas posés, pas terminés de poser, ou qui étaient posés sur la face nord du toit, la pire manière qui soit. Et puis vous aviez des arnaques commercial, de manière à faire passer la grosse facture, où on racontait strictement n'importe quoi aux gens, à la limite qu'ils allaient faire fortune en revendant l'électricité à leur fournisseur d'énergie. Et c'est toujours pareil. Quand vous avez un commercial en face de vous qui commence à vous raconter plein de choses, la meilleure manière de vérifier s'il vous ment, c'est vous lui demander de l'écrire. Parce que quand on vous raconte quelque chose qui n'est pas dans le contrat, ça doit vous alerter.
On va prendre Françoise rapidement au 04 72 38 20 23. Bonjour Françoise.
Bonjour. Voilà, moi j'ai fait une commande sur Internet, évidemment. Je n'ai jamais reçu ma commande. J'ai téléphoné, j'ai envoyé des mails, personne ne me répond, le téléphone ne correspond pas. Bref, j'ai eu le transporteur qui m'a envoyé un mail, mais complètement bien fait, de chez Chronopost en disant « On n'a pas pu faire votre livraison, madame, il faut vous me donner, je crois que c'était symbolique, hein, c'était 4 ou 5 euros. » Ah bon, je me suis interrogée, j'ai envoyé un mail en disant « Bah non, parce que sur la commande, j'ai payé mes frais de livraison. » Bref, il me répond en disant « Bah si, on ne pourra pas. » Bref, j'appelle Chronopost et Chronopost, tout de suite, la banque m'a dit, m'a envoyé un mail, là, du coup, c'était bien fait, en disant « Attention, interrogation, peut-être fraude. » La banque, peut-être fraude, je me suis interrogée et j'ai envoyé un message à Chronopost en disant « Oui, c'est une fraude, madame, le transporteur n'a pas à vous demander cette somme. » Mais ce type avait quand même eu mon numéro de carte. Comment ? Je n'en sais rien. Donc, j'ai téléphoné à la banque m'a dit « Tout de suite, on a fait opposition, ils ne m'ont pas retiré, ils ne m'ont rien retiré.
Oui. »
Mais
pas simple,
croyez-moi,
hein.
Croyez-moi, ce que j'ai reçu, heureusement que j'étais sur mon téléphone, sur Internet, ce que j'ai reçu de chez Chronopost, j'ai comparé avec je suis allée à la poste, mais c'est complètement ça, quoi. C'est complètement ça. Mais... Je suis trompée, quoi. J'aurais pu donner mes 5 euros, hein, ou 6 euros, je ne sais plus ce qu'ils me demandaient, voyez.
Merci Françoise et bravo pour cette vigilance. Pascal Tonnerre, on arrive presque à la fin de cette émission. Peut-être un conseil à transmettre à nos auditeurs, un conseil de vigilance, on imagine.
Oui, et puis c'est surtout, on parlait pas mal quand même de vente à distance, par l'outil Internet qui est fabuleux, c'est vraiment de faire une mini-enquête, surtout lorsqu'on est confronté à des sites dont on ne connaît pas spécialement le nom. Donc, mini-enquête, ça va être quoi? Bien, c'est bien sûr faire le curieux sur les forums, hein, de taper sur un moteur de recherche le nom le catalogue ou la marque, et puis de voir s'il y a des réclamations. Et surtout, un réflexe à avoir absolument, c'est d'aller sur vraiment une rubrique qui s'appelle une rubrique mention légale, qui est toujours en dernière page du site. Hein. Il faut prendre l'ascenseur et puis aller vraiment sur les dernières pages. Et s'il n'y en a pas, c'est déjà un mauvais signe parce que c'est obligatoire. Mais surtout, les mentions légales, c'est en fait la pièce d'identité du site. On sait qui possède le site, quelle est la société qui est derrière, c'est un entrepreneur, si c'est en France ou à l'étranger, parce que malheureusement, les recours à l'étranger sont très difficiles, pour ne pas dire impossibles. Donc, il y a vraiment une mini-enquête à faire, peut-être pas pour une commande de 10 euros, mais au moins pour des commandes supérieures. Ouais. Et puis, toujours penser à cette fameuse ICAP pour un petit peu, pour au moins protéger son paiement.
Voilà, donc faire attention, être curieux, être vigilant. Et puis, vous avez des petits-enfants, n'hésitez pas à leur demander aussi, parce que souvent, les petits-enfants ont quelques clés, on leur apprend ça assez rapidement. Et je peux vous assurer que moi, avec mes grands-parents, je suis plutôt utile pour ça, pour faire attention aux arnaques et aux spams. Alors, vous savez que dans Je pense donc j'agis, on donne beaucoup de clés, des conseils. Alors là, on va changer de domaine, puisqu'on va parler des jeunes, justement. Et on retrouve notre chroniqueuse Marion Denis du think tank Vers le haut. Bonjour Marion.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Alors, vous nous parlez du soutien psychologique aux jeunes étudiants ce matin.
Et oui Melchior, c'est important de parler de santé mentale. De fait, une bonne santé mentale, c'est la clé de la réussite. Un bien-être mental permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive.
Et malheureusement, beaucoup de jeunes souffrent de dépression, surtout depuis la pandémie mondiale.
Oui, aujourd'hui, ce sont 70% des étudiants qui déclarent se trouver en situation de mal-être et c'est énorme. Ce mal-être est lié à beaucoup de facteurs, les relations amoureuses, les relations amicales ou familiales ou encore le stress, l'isolement, la solitude. Heureusement, il existe des associations qui aident ces jeunes et les écoutent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nightline, Melchior.
Alors non, mais j'imagine que vous allez nous présenter cette association.
Bien sûr, en fait, Nightline est un service d'écoute nocturne tenu par des étudiants. Ils offrent un cadre bienveillant pour permettre à d'autres étudiants partout en France de vider leur sac en français ou en anglais. Les bénévoles sont formés à l'écoute active et sont là pour les jeunes par téléphone ou par chat. Nightline a quatre grands principes. L'anonymat, jamais ne sera demandé à la personne au bout du fil de dire qui elle est. La confidentialité, tout ce qui est dit reste entre la personne qui appelle et le bénévole. En plus, cela aide à créer une relation de confiance. L'absence de jugement, rien n'est tabou et il n'y a aucune hiérarchisation des sujets abordés. Et enfin, une règle très importante, la non-directivité. Les bénévoles ne chercheront jamais à aiguiller la discussion car ce ne sont pas des professionnels de santé.
Et Nightline agit autrement que par l'écoute des jeunes ?
Alors oui, l'association a mis en place un outil sur leur site internet qui recense tous les soutiens psychologiques gratuits disponibles dans l'académie où l'étudiant se trouve, sans avoir à avancer de frais. Chaque étudiant trouve une cartographie des structures qui lui sont dédiées en fonction de leur parcours ou de leur profil. Nightline intervient également en classe préparatoire auprès des étudiants pour les sensibiliser à la santé mentale dans une période qui est souvent compliquée et stressante pour eux.
Eh bien, merci beaucoup Marion Denis de nous avoir parlé de Nightline, à retrouver sur le site internet www.nightline.fr. Et puis voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à tous les trois, Pascal Tonnerre, Michel Guillot et Olivier Guéraud d'avoir participé à Je pense donc j'agis. J'espère que ça a été utile aussi pour vous transmettre quelques clés, quelques bons conseils. On peut retrouver plus d'informations sur le site arnaque-info.org, ça c'est pour vous Pascal Tonnerre, ou encore franceconsobanque.fr, c'est pour vous Michel Guillot, et bien sûr la CLCV, clcv.org, l'association nationale de défense des consommateurs et des usagers. Merci à Pascal, et à Catherine qui ont permis la réalisation de cette émission, et bien sûr à Jeanne. On se retrouve demain de 9h à 11h avec une rediffusion exceptionnellement de Je pense donc j'agis. Ça parlera de la cartographie et de l'entretien des sentiers de randonnée. Bonne journée à tous avec RCF.